Bonjour, c'est Lydie Vinsanier, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Il va être aujourd'hui question de dépendance numérique. Une dépendance particulière en ceci qu'elle nous touche à peu près tous, à l'exception peut-être de quelques moines trappistes, de bergers pâturant dans ce qu'on appelle les zones blanches avec zéro réseau, quoi, de patients en soins palliatifs, de mammifères terrestres ou marins. Oui, peu nombreux sont ceux qui échappent à l'emprise tentaculaire des réseaux dits sociaux qui sont en train de bouleverser, d'impacter, comme disent les technocrates, les rapports du même nom. Au lieu de regarder, on photographie, au lieu de parler, on textote, au lieu de réfléchir, on ramasse en 140 caractères, et la nouvelle idée que l'on se fait du temps qui passe se résume à une immédiateté sans cesse déjà dépassée, comme un clou qui chasse l'autre. Les histoires se dénouent avant d'avoir pu se nouer, et quant aux opinions, elles sont souvent soumises à un tribunal permanent dès qu'un mot ou une attitude jugée de travers offre prise à l'instantanée avalanche de commentaires. Je sais, dit comme ça, ça ressemble à l'enfer, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, mes amis, et il ne tient qu'à nous d'en changer. Et puis heureusement, on peut en rire, profitons-en tant que ça dure. D'ailleurs, c'est l'occasion ou jamais, puisque le cinéma vient de s'en emparer avec une satire épatante, récompensée de l'amphore dernier festival du cinéma de Groland, une distinction qui l'emporte sur toutes les autres. Et comme Elsa Silberstein fait partie du casting, bah c'est pour nous, pop-popien, un double motif de consolation. Elsa Silberstein est l'invitée de Pop-Pop-Pop.
France Inter. Pop-Pop-Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Elsa et bienvenue dans
Bonjour.
Pop Pop Pop.
Bonjour Pop Pop Pop.
Bonjour à mes côtés, @mademoisellegals sur les réseaux sociaux, aka Charline Roux. Bonjour Charline.
Pourquoi bonjour Antoine, bonjour Elsa. Alors on n'a dit pas les vêtements, pas la famille et pas les explications de pseudo.
Ok, d'accord. Enfin maintenant on sait où vous trouvez. Alors au menu également de Pop Pop Pop, Thomas Bideguin, un des auteurs et réalisateurs puisqu'il s'agit d'un film à sketch, le fameux selfie dont nous allons parler pendant cette pop-heure. Mais avant ça, ma chère Elsa, ici, il existe une question. Une question que je pose chaque jour en utilisant un mème d'Internet, entendez par là un gimmick, celui de l'écureuil aux millions de vues qui se retourne sur ce son. Ok, et je m'en sers donc pour poser la question de l'émission, à savoir, pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses elsatisées, Silbersteinatives et même selfisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de l'homme le plus obsédé par les selfies au monde, Olivier Roustin.
Je pense que pop culture, ça rime avec deux mots, populaire et population. Mm-hmm. C'est une façon de s'ancrer dans le temps, dans un temps présent, ça c'est une réalité. Mais aussi de parler aux gens en fait. Mm-hmm. Et c'est extrêmement important, je pense que comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pop, c'est de la pop culture, on parle à la population et on est populaire.
Voilà, ça c'était pour Olivier Roustin, directeur artistique de la Maison Balmain, et pour vous Elsa Silberstein.
Non, je suis assez d'accord, c'est ce qui touche, en fait c'est tout ce qui fait que j'ai eu envie d'être actrice. Mmh. Le pop culture, mmh. C'est ça va faire fou, mais c'est aussi bien Spider-Man, Wonder Woman,
Que Piala.
Oui, ouais, non, c'est vrai que c'est qu'est-ce qui t'a nourri en étant petit aussi, des choses totalement, même Star Trek, mmh. R2-D2, tout ça, ça fait partie de cette culture-là, mmh. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire du cinéma, c'est justement de la culture populaire qui fait que t'as accès à ça, petite, c'est ça.
Vous seriez bien en super-héroïne.
J'adorerais. Je vais vous faire rire parce que j'ai fait des essais pour un Marvel, le dernier Marvel que j'ai pas réussi finalement. Mais enfin, j'ai reçu une lettre de chez Marvel. Et alors, c'était très drôle parce que je me retrouvais dans une chambre d'hôtel. Je partais en voyage un week-end. Je me suis dit, oh là là, il faut que je prenne une perruque. Je me suis retrouvée à aller dans un magasin de farce et attrape, acheter des perruques et à faire un essai dans ma chambre d'hôtel avec une bouteille d'Evian. My blood is blue. Et le vaisseau spatial qui partait en couille. Voilà.
Donc, pour Avengers.
J'aimerais bien un jour, peut-être, on verra.
Ok, bah oui, pourquoi pas une super-héroïne. Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après The Light. C'est une nouvelle pépite pop envoyée par nos amis de Métronomie. Mmh. The Light, cet extrait de Metronomy Forever, leur tout nouvel album. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une invitée césarisée, globe de cristallisée, et dans quelques instants, consécration suprême, pop portraitisée. Alors oui, votre pop portrait, c'est votre portrait, Elsa, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est... signé Charline Oro.
Dites pas que ça, dites pas que ça vaut un César, en fait. Tout le monde va s'en rendre compte. Aujourd'hui, une invitée qui s'était entendue dire à ses débuts, avec une bienveillance très sensée, « Mademoiselle, il faut 10 ans pour faire une actrice. » Et comme ce conseil émanait d'une éminence, en l'occurrence Claude Lelouch, l'aspect prophétique de la phrase semblait indiscutable. Eh bien, c'était sans compter sur le tempérament impétueux de notre invitée qui, en quelques toutes petites années, a réussi à asseoir le caractère évident de sa vocation. Chez Piala, chez Doyon, elle crève l'écran. Dans Beaufix et Mina Tannenbaum, elle paie les deniers du culte et s'assure l'amour infini de toute une génération qui lève le bras dans ce studio. On est toujours à moins de 10 ans de carrière. Hein. De beaux rôles, de grands noms auxquels viendront s'ajouter ceux de James Ivory, de Rallo Ruiz à de multiples reprises, de Philippe Lioré, de Chantal Akerman, de Laetitia Masson, d'Anne Fontaine, de Claude Lelouch, d'Antoine Decaune, ça c'est contractuel, je suis obligée de le dire, Philippe Claudel, et avec d'ailleurs un rôle sur mesure dans Il y a longtemps que je t'aime qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Filmo non exhaustive et donc forcément frustrante, mais qui me permet quand même d'affirmer que Claude Lelouch, avec tout le respect qui lui est dû, peut parfois se tromper.
Bien, non exhaustive mais forcément frustrante. Est-ce qu'il manque quelque chose d'essentiel?
Non, plein de choses. Non, non, il manque des trucs, mais déjà c'était bien parce que généralement il garde 3 trucs. Non, non.
Quand on voit la page de la film, oui, ça commence à être très impressionnant.
Ah, moi, je me rends pas compte. J'ai l'impression d'avoir encore rien fait, mais non, j'exagère un peu. Oui, non. En plus, Claude Lelouch, c'était vraiment quelqu'un à qui je rêvais de travailler, quoi. C'était vraiment, quand il était venu au Cours Florent faire une masterclass, je trouvais ce mec incroyable et je m'étais dit, je sais que je suis une actrice pour lui. Et puis finalement, on a fait en plus une avec Jean Dujardin en Inde et c'était merveilleux de faire ça. J'ai fait Modigliani aussi avec Andy Garcia, qui était un film important, mon premier film en anglais.
Ah non, mais commencez pas à faire toute la revue
voilà,
des films.
Il en manque plein, j'ai prévenu.
Non, mais peu importe. Soir,
non, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est juste merveilleux. D'avoir cette liberté que j'ai obtenue et que je voulais de passer d'un monde à l'autre. Et de pouvoir dire, tiens, demain, je vais bosser peut-être avec Philippe Garrel ou Arnaud Desplechin et de dire, ben, ouais, je vais faire aussi une énorme comédie avec, je sais pas qui.
Donc. José Garcia.
Avec José Garcia. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment une liberté merveilleuse. Et c'est vrai que c'est pas très français. Parce qu'on met vite dans des cases. Et j'ai eu la chance, depuis le départ, en fait, d'accéder à des rôles assez merveilleux. Même Mina, c'était un rôle fort. Et du coup, j'ai obtenu ça. Voilà.
Elsa, je sais qu'après le tournage de chacun de vos films, vous aimez aller au supermarché pour remplir votre caddie. Alors, je vous propose d'aller dans le plus grand supermarché au monde, celui de la pop culture. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Elsa, pour le livre, vous avez choisi « Lettre d'une inconnue » de Stefan Zweig, publié en 1922. Charline, il s'agit d'une nouvelle de Stefan Zweig, à la fois mélodramatique et sublime. De quoi parle-t-elle, cette fameuse lettre ?
Un écrivain de renom reçoit la lettre d'une inconnue, une mère dont le jeune garçon vient de mourir, elle-même est en train de succomber. Dans cette lettre, il apprend que cet enfant est de lui. Par la même occasion, il découvre la passion amoureuse qui a dévoré l'existence de cette femme depuis qu'elle a 13 ans.
Elsa Silberstein, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît.
À dater de cette seconde-là, je t'ai aimée. Je sais, les femmes ne t'ont que trop souvent dit ce mot. Mais crois-moi, personne ne t'a aimée aussi servilement, avec autant de soumission et de dévouement que l'être que j'étais alors et que j'ai toujours été pour toi. Rien sur terre n'égale l'amour inaperçu d'une enfant depuis l'ombre. Parce qu'il est sans espoir, empressé, humble, vigilant et passionné, comme ne le sera jamais l'amour d'une femme faite, lequel désire, mais inconsciemment, exige aussi.
Stefan Zweig, alors adapté au cinéma en 48 hein, par Max Ophuls avec John Fontaine, c'est le genre de rôle dont on rêve, c'est, la littérature vous amène à ça?
Oui, en fait je trouve ça magnifique parce que c'est l'histoire d'une femme qui n'est jamais reconnue, elle fait l'amour avec cet homme qui ne la reconnaît jamais. Et je trouve ça magnifique, cette lettre. Chez Zweig, les héroïnes, elles sont sublimes parce qu'elles sont toujours sur le fil. Elles sont des héroïnes, je les appelle les héroïnes viennoises. Elles ont un côté, comme dans Schnitzler, Mademoiselle Else, par exemple. C'est des héroïnes qui sont prêtes à tomber, prêtes à succomber à la folie de leur histoire, de leur amour, de leur névrose. C'est toujours des destins croisés, des destins ratés, des gens qui essayent de croire en la vie, en l'amour, en ce qu'ils sont. Et c'est toujours magnifique, Zweig. Voilà.
Lettre d'une inconnue, c'est cette nouvelle de Stefan Zweig. Donc, bien, passons au film. Chantons sous la pluie, le film que vous choisissez, Elsa.
Ouais.
Film réalisé par Stanley Donen et Jane Kelly en 52. Charline, vous arrive-t-il aussi de chanter sous la pluie, voire danser? Si oui, sur quelle musique les Français veulent savoir?
Non, je vous promets que les Français veulent vraiment pas savoir. Don Lockwood et Lina Lemon, couple star du cinéma muet.
Moi, je veux savoir.
Vous n'êtes pas les Français, Antoine de Caunes. Couple star du cinéma muet doit faire face à l'arrivée du parlant. Ils tournent donc leur premier film du genre. Pour Don, tout roule, mais pour Lina et sa voix de crécelle, c'est plus compliqué.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready.
Singing in the Rain de Stanley Donen et Jane Kelly, c'est par définition le film qui fait du bien.
C'est le film que je regardais tous les mercredis en rentrant de l'école. Enfin, un mercredi sur deux en rentrant de l'école. C'est des films comme ça, on a envie d'être comme dans le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, on a envie de sauter dans l'écran. J'avais envie d'être cette jeune femme qui veut être actrice. Je trouvais le film merveilleux, poétique, romanesque, beau, lumineux, plein de couleurs. C'est un film qui m'a fait rêver, qui m'a donné... Moi, j'ai commencé avec de la danse classique beaucoup et j'aimais la comédie musicale. C'est ce qui m'a donné d'abord envie d'être sur scène. Et il y avait ça dans ce film-là, il y avait la comédie musicale, il y avait la chanson, il y avait toute cette grâce, Jane Kelly qui danse comme personne. Et puis, comme si on était, quand il pleut dehors et qu'on est angoissé, et que dedans il fait beau, on a envie d'être dans le film parce que c'est un rayon de soleil.
Bien. Ensuite, Elsa, direction le Yorkshire au Royaume-Uni et le château de Downton Abbey, car c'est la série que vous choisissez, une série créée par Julian Fellowes. Charline, il en est peut-être hein, parmi nos auditeurs, ceux qui passent leur temps sur les réseaux sociaux par exemple, qui n'ont pas encore vu Downton Abbey. Expliquez-leur de quoi ça parle.
Les héritiers de Downton Abbey ont péri lors du naufrage du Titanic et c'est d'autant plus fâcheux que le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey et découvre les us et coutumes.
Mon cousin Germain et son fils sont très certainement morts.
Comment ? Monsieur Crawley était le cousin et l'héritier du titre de Monsieur le Comte.
J'ai donné toute ma vie à Downton. Je suis né ici.
Le prix à payer pour sauver Downton est d'accepter Matthew Crawley comme héritier.
Je n'ai pas géré Downton depuis 30 ans. Pour le voir alloué de fond en comble à un étranger venu de... Dieu sait où.
Downton Abbey, oui, qui donc a été tourné en français, hein, sous le titre L'abbaye du bas de la ville, c'est ça?
Downton.
Bon. Alors, pourquoi avoir choisi cette famille aristocratique?
Je sais pas, en français, c'est quand même particulier. Alors, j'adore parce que moi, alors, je vais, peut-être les gens vont se dire, ah, la folle de pas regarder de séries. Je regarde pas encore assez de séries, j'avoue.
Ah, la folle.
Je me suis, parce que j'ai l'impression que tout le monde regarde des séries. Moi, je suis un peu en retard et j'ai adoré cette série. J'ai adoré plonger dans cet univers. Mmh. Le rapport de l'aristocratie, là, et du monde.
Du rapport de classe.
Voilà, le rapport de classe était extrêmement bien ramené. Je trouvais les histoires passionnantes. Je peux pas résister. Did you put some soup in the soup? This is a spoon for the soup. This is a spoon for dessert.
Calmez-vous,
j'adore. Alors, du coup, j'adorais Maggie Smith qui dit weekend. What's a weekend? Je peux pas résister, quoi. Maggie Smith qui se demande ce que c'est un week-end. Je trouve ça merveilleux. Je trouve les acteurs exceptionnels. Elizabeth McGovern que j'adore. Voilà, c'était merveilleux.
Bien, il me manque juste une chanson pour terminer cette pop list. Et votre chanson culte, eh bien, c'est celle-ci. Mother, une chanson de John Lennon parue sur l'album John Lennon Plastic Ono Band, le premier album solo, celui sur lequel figure Working Class Hero, juste pour situer, produit par Phil Spector qui avait auparavant travaillé avec Lennon sur Instant Karma, un album épuré à l'extrême et qui va à l'essentiel, cette chanson en particulier.
Oui, oui. C'est le premier album, je crois, qu'il fait
après
les Beatles. Ouais. Je trouve ça à la grâce absolue. C'est d'une beauté presque comme les statues de Giacometti où il y aurait plus qu'un fil comme ça.
L'essentiel.
Où il y aurait l'essentiel. Il y a plus d'appareil. Il y a juste quelque chose de très émouvant, comme un acteur qui arrive à la perfection dans son art. Je trouve avec quelque chose de très émouvant dans sa voix.
Bien, alors je résume, Elsa Silberstein, Lettre d'une inconnue, Chantons sous la pluie, d'Anton Abbey et John Lennon. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture.
Oui.
Et ça nous donne ça.
Mon cousin Germain et son fils sont très certainement morts.
Crois-moi, personne ne t'a aimé aussi servilement que l'être que j'étais alors.
Monsieur Crowley était le cousin et l'héritier du titre de Monsieur le Comte.
Come on with the rain, have a smile on my face.
Rien sur terre n'égale l'amour inaperçu d'une enfant depuis l'ombre.
Voilà Elsa Silberstein, compactée comme un César.
Pas mal, j'adore.
On s'y retrouve.
C'est pas mal, ouais.
Bien. Alors Elsa, avant d'accueillir un des auteurs et réalisateurs du film Selfie, Thomas Bideguin, on écoute Deadly Valentine. C'est un morceau de Charlotte Gainsbourg, extrait de son dernier album Rest, produit par Sébastien.
Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Et Charline Roux. Selfie, définition. Selfie, Blanche Gardin, et selfie, bande-annonce, sont les premiers résultats qui tombent quand je tape selfie sur Google. Nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Silberstein et vient de nous rejoindre Thomas Bideguin, un des auteurs et des réalisateurs du film Selfie. Bonjour Thomas.
Et bonjour Antoine.
Alors
bonjour,
je dis un des, car vous êtes plusieurs auteurs et réalisateurs, comme le film est divisé en 5 récits, un film à sketch, donc, comme on dit. Alors non pas une histoire, mais des histoires. Et c'est vous qui ouvrez le bal, Thomas. Juste un mot rapide sur la construction globale du film. Comment ce puzzle s'est-il assemblé?
Bah, petit à petit, il y a des auteurs. D'ailleurs, un des auteurs, Julien Ciboni, est aussi producteur du film. Ils ont écrit, puis ils sont venus nous chercher. Ensuite, on a tourné, ce qui était vraiment un truc de marrant. On a tous tourné avec la même équipe, 5 réalisateurs, petit à petit. Moi, je suis passé en dernier. Mmh. Et,
ça ne vous ressemble pas.
C'était pas mal. Et ensuite, on a tous vu le montage de chacun. Donc, alors ça, c'était marrant. Ça a été long, quoi. Ça a été 5 fois plus long, pratiquement, que d'habitude. On a fait 10 jours de tournage et 1 an et demi de post-production. Vous avez l'impression à la fin d'avoir fait Gangs of New York. Mais c'est des morceaux de 20-25 minutes qui les personnages se croisent, ouais, le film se croise et la thématique est tellement large et en même temps très unie et ça donne une vraie unité au film. Et c'était vraiment chouette de confronter nos 5 points de vue là-dessus.
Comme je le résumais très sommairement au début de l'émission, l'addiction numérique d'une certaine manière.
Voilà.
Et est-ce que vous avez tous les deux la recette pour réussir son selfie? Parce que j'avoue, je ne maîtrise pas. Alors, plusieurs mentons, plusieurs.
Perdre 15 kilos.
La recette,
moi,
c'est prendre un bras, non? C'est ça?
Je sais pas,
mais ça fait très japonais avec le bras.
Avec le bras, oui.
Bon. Mais non, c'est pas possible. Alors, selfie, c'est l'histoire de notre histoire, celle d'un monde dans lequel les réseaux sociaux ont pris le contrôle au point d'en dérouter certains, bandes annonces.
Et là, qu'est-ce que je fais maintenant?
Voilà, là, votre profil, c'est de là que les gens verront votre photo.
Donc tout le monde peut voir ma photo?
Oui, madame.
T'énerves pas, Malik, enfin. J'essaie de comprendre.
Vous savez ce que c'est un stalker?
Un stalker. Surveiller la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux.
IRL, ça veut dire quoi?
Vous savez, pour toutes vos questions, il y a un navigateur qui s'appelle Google. Google.
Selfie de l'influence du numérique sur les honnêtes gens, ça sort mercredi.
Alors, il semblerait que chez nos amis québécois, selfie se dise égoportrait. Est-ce que ça vous voit comme titre drôle, pour la version québécoise? Et surtout, est-ce que c'est pas un très très bon pitch du film, égoportrait?
C'est un excellent pitch. Ouais. Mais quelle clairvoyance. Ouais, non, on va refaire
sans
toute
force
la campagne.
C'est québécois.
On va refaire. Réimprimer les affiches.
Et moi, je te
le dis
avec l'accent. Un égoportrait.
Un égoportrait. Tu veux dire un égoportrait? On va faire un carton dans ce pays.
Antoine, vous faites l'accent aussi.
L'égoportrait.
Oh, non. Ils sont
vrais, c'est magnifique. Alors, avant d'aller plus loin.
On n'avait pas dit chinois.
Plus loin, je voudrais connaître votre propre degré d'addiction aux réseaux sociaux. Alors, à tous les deux, et quel effet ils ont sur vos propres vies.
Alors là, je viens de faire, vous voyez, un petit story parce que on est en promo. Je me suis dit,
tiens, des petites stories.
Voilà, je suis un petit peu accro au Instagram, moi, comme ça. Mais je suis quand même une braise. C'est-à-dire que hier, j'étais quand même au téléphone avec le producteur pour poster un truc. Ah, oui. Il était en train de m'expliquer. J'ai dit, là, bon, j'ai l'impression que je suis Bettina dans le film.
Ouais. Mais c'est devenu quand même un outil important.
Ah, oui. Bah, en fait, pour les actrices, je trouve ça joli, l'Instagram, parce que c'est le lien aux photos. Et puis, c'est une manière, alors j'avoue, de parler avec le public et d'échanger avec certaines personnes.
Toutes les actrices sont folles d'Instagram. Non, c'est vrai, il y a une espèce de concours entre
les comédiens. On se suit les unes les autres.
Qui aura plus de followers que Marina Foy?
Ah, mais Thomas, 176 abonnés Instagram. Oui. On va dire que c'est le début d'un culte pour vous, quoi.
C'est le début. C'était surtout pour suivre mes enfants au début. Et 176,
c'est
ça fait
stalker,
beaucoup.
C'est pour stocker, vous voulez dire?
Non, un petit peu, mais il me coupe. Là, je sais pas comment. Je suis
incapable
de le faire. Oui,
mais
il bloque.
Les 0 publications.
Si j'ai publié 3 trucs. Un jour, j'étais en Corée, j'ai fait une photo de la Corée, des trucs comme ça. Mais
vous préférez regarder.
Mais si je vous demande à tous les deux un ratio entre l'extrême violence, voire l'extrême pénibilité parfois de ces réseaux sociaux et en même temps leur pratique aussi parfois très rafraîchissante et un peu fun, de quel côté vous faites pencher la balance?
Ce qui est intéressant, c'est le mélange. Vous savez, quand c'est sorti, tout ça, on s'était dit, il va y avoir un monde virtuel, et puis à côté, il y aura la vie. Et en fait, non, c'est mélangé. Et donc, le bon et le mauvais, c'est mélangé. C'est ce qu'on voit dans le film. Ça, souvent, dans ces films qui parlent d'Internet, comme ça, racontent ça avec des histoires d'ados. Et en fait, là, ce qui est chouette, c'est que c'est des histoires de gens de notre génération.
Exactement.
C'est-à-dire des gens qui n'ont pas grandi avec. Et puis, à un moment, il a fallu s'adapter. Et puis, à un moment, voilà, comment est-ce qu'on gère une famille là-dessus? Comment est-ce qu'on devient prof avec un prof 2.0? Comment est-ce qu'on peut séduire maintenant avec des applis? Et c'est ça, c'est l'adaptation qui crée du grincement et donc de la comédie.
Elsa, ce poids du numérique plutôt plaisant ou pesant?
Un peu comme dit Thomas, c'est moitié-moitié, je trouve. Quand tu te retrouves avec des sales commentaires, des gens qui sont vraiment malveillants, tu fais « Ah, c'est vraiment de la merde, ce truc !» Et puis tout d'un coup, quand il y a des gentils commentaires, tu dis « C'est chouette !» Bon, j'exagère un peu, mais en fait, ce que je trouve dangereux, la violence, moi, je supporte plus le tribunal, les procès constants des réseaux sociaux. Parfois, ça va trop loin. Les gens ne prennent même pas le temps de vérifier que l'information est juste. Il n'y a plus de fil. C'est un peu n'importe quoi. Ouais. Voilà. Donc, le film, justement, il est assez parce que justement, il nous donne un miroir de ce qu'on est en train de vivre, que ce soit dans la sauvagerie ou dans la folie de cette époque qui n'a plus de filtre en effet.
Et vous, qui ou que suivez-vous sur Instagram, sur Twitter et pourquoi?
Alors,
en dehors de vos enfants,
Twitter,
Thomas, bien sûr.
Pour suivre les blagues de Laurent Chalumeau. voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis rentré sur Twitter, parce que c'est là-bas qu'il faisait les meilleurs. Et puis il a un peu arrêté, moi j'ai continué, donc je suis ça, je suis un peu l'actualité, je suis les journalistes qui font la Maison Blanche, j'aime bien ça. Et c'est un vieux truc de West Wing, qu'est-ce que je suis, voilà, et puis après des gars qui font des blagues. Les copains de Par Jupiter, par exemple, Alexis Dorec, des trucs comme ça, mais pas des tonnes. J'ai toujours peur. À un moment, j'étais sur Facebook. J'en suis parti parce que c'était comme si vous rentrez dans une fête. Tout le monde vous demande un ami, et donc vous rentrez dans une fête, vous connaissez personne, à la fin, vous connaissez 5% des gens qui sont vos copains, et puis c'est comme rentrer dans un endroit, et puis tout le monde vous regarde, et vous savez pas où vous êtes. Donc ça me rendait trop parano.
Elsa, même question, vous suivez qui, vous?
Mes copains acteurs, voilà, mon copain Jean Dujardin, on se suit, on se
les actrices
soutient,
aussi.
Je suis des actrices, des copines actrices, c'est vrai qu'on se regarde les unes les autres, on se met des petits commentaires, mais ça va pas plus loin que ça, enfin, je suis des acteurs américains aussi, des chanteuses, ça me fait marrer.
Thomas, je suis allé me plonger dans votre compte Twitter et je suis tombé sur cette vidéo, celle d'un garagiste qui reprend Jingle Bells mais avec des clés à molette. Alors, quelle est votre ligne éditoriale au juste?
Bien, allez, celle-là, c'était à la fois pour célébrer l'esprit de Noël et le travail des cheminots qui étaient malheureusement en grève à ce moment-là. Et donc oui, je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne éditoriale, mais chaque fois, je trouve on peut quand même beaucoup rire sur Twitter. Ouais.
Si on voit pour point commun toutes ces histoires racontées dans Selfie, ce que Souchon appelait l'ultra-moderne solitude, est-ce qu'on se fourvoie? Parce qu'ils sont tous quand même très seuls, mine de rien, quoique très connectés.
Mais oui. Ils sont très seuls. Après, la question, c'est toujours pareil. Vous jetez ça comme ça, vous jetez ça.
Après, le garagiste qui fait la clé à molette.
Vous jetez notre solitude à la gueule, madame. Eh bien, non, mais est-ce que les gens étaient moins seuls avant? Toujours le truc. Après, les gens disent,
maintenant,
avec la télévision, les gens ne parlent plus. Alors maintenant, avec Internet, ils se regardent même pas. Et puis voilà, moi, je sais, ma fille, chaque fois, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone toute sa vie? Mais elle se couche, le matin, premier geste, elle regarde le truc, elle se réveille toute la journée. Elle dit, non, je parle avec des gens. Et en fait, non, elle ne parle du coup jamais avec des gens. Parce qu'elle communique, elle envoie des messages avec des trucs à base de émoticons. Et puis voilà, mais c'est pas parler avec des gens.
C'est tout l'objet de Selfie, le film. Alors Thomas, vous avez réalisé et scénarisé un des épisodes du film, l'épisode avec Maxence Tuel et Blanche Cardin. Le texte est un peu à l'image de Blanche, d'un humour, on va dire, sans concession. Une Blanche qui a donc décidé de mettre en scène sa vie familiale, une vie bouleversée par la maladie d'un de ses enfants qu'elle étale avec son mari sur les réseaux sociaux.
Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie.
Mais j'ai pas de problème, moi.
Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 euros.
Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs.
Eh, je le fais pour une comédie française sur deux.
Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous.
Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse.
Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra, là?
Tout le monde s'en branle de nous.
Merde, merde, merde!
C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues, là.
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est-elle purement fortuite?
Bien sûr. Non, bien sûr. Alors, en fait, il y avait 5 petits scénarios. J'avais choisi celui-là parce que c'était le plus grinçant. Après, il fallait trouver quelqu'un pour incarner ça. Et donc, j'avais envie de travailler avec Maxence, qui joue le mari de Blanche. J'avais envie de travailler avec Blanche aussi depuis un moment. On se connaît depuis quelques années. Et du coup, voilà, on a beaucoup retravaillé le scénario. C'est la première fois que je fais de la comédie. Et je fais d'habitude, je fais des films sérieux, des films disponibles en pharmacie. Et encore, sur ordonnance. Mais vous voyez, là, c'est une comédie. Donc voilà, je me suis dit, c'est difficile de filmer les blagues des autres. Ouais. Donc on a repris le scénario avec Maxence et Blanche. Et puis on a beaucoup lu, on a beaucoup vu aussi de vlogs sur Internet. Ouais. Des gens qui pleurent devant la caméra parce qu'ils ont perdu leur chaton, des parents avec leurs enfants qui se filment chez le coiffeur, en sortant chez le coiffeur, en faisant les courses, en rapportant les courses à la maison, quand ils ont une nouvelle voiture. Enfin voilà, tout est sujet à se filmer.
Elsa, vous, dans Le Troll, roman épistolaire réalisé par Marc Fitoussi, c'est votre personnage qui avait pourtant réussi à leur échapper, qui se fait littéralement happer par les réseaux sociaux au point d'y vivre un amour fantasmé avec une star des réseaux. Morale, l'amour est donc plutôt dans le pré.
Non, ce que j'aimais bien dans ce personnage de Bettina, finalement c'est une femme qui rêve sa vie. Alors, elle est passée de Stendhal, Flaubert, Balzac à cette vie virtuelle. Mais elle l'a transposée exactement comme ça. C'est-à-dire qu'elle a dû être amoureuse de Lucien de Rubempré, puis d'un coup, elle se met à créer ce réseau. On lui crée un faux site. Du coup, elle crée Atmerteuil, qui est son pseudo.
La célèbre
Merteuil des liaisons dangereuses. Et elle va se mettre à échanger passionnément avec cet homme qu'elle trouve débile au départ, qui a deux mots de vocabulaire. Et elle va tomber amoureuse de lui. Donc c'est sa vie virtuelle qu'elle va vivre comme ça, de manière un peu folle avec lui.
Mais elle a un côté Bovary 2.0 quand même.
Complètement.
Hein, noyée dans une histoire qui lui appartient pas.
En fait, moi j'adore Woody Allen.
Et
c'est vrai je suis une passion pour Judy Davis dans les films de Woody Allen. Et je m'étais dit, voilà. Et en fait, c'est un petit clin d'œil. Même le look, je voulais que ce soit cette fille qui vit seule avec son sac à dos plat, les chaussures molles. Je me suis dit, il faut un look. Et j'ai eu un flash. J'ai dit, ça y est, je sais. Je veux être toute bouclée. La fille va jamais chez le coiffeur. C'est pas sa priorité du tout.
Elle a un chat à la maison.
Elle a un chat. Et voilà, elle vit dans ses rêves, dans sa poésie. Elle fait son petit plateau le soir avec une petite bouteille de vin.
Coupe de champagne.
D'un coup, c'est romantique. Un peu comme La Rose pourpre du Caire, il y avait aussi ça. Elle est une héroïne, ça devient concret. Il a mis le tweet à l'écran. Elle se dit, oh là là, ça devient romanesque, tout ça. C'est excitant. D'un coup, elle se transporte là-dedans. Et voilà, elle va vivre sa vie de manière un peu...
Ça s'appelle Selfie, c'est une satire très drôle, très, très acide aussi de l'influence du numérique sur les honnêtes gens, puisque nous sommes tous des honnêtes gens, et ça sort mercredi.
On en dira encore un mot
tout à l'heure, ne bougez pas. Elsa Silberstein, Thomas Bittgen, lequel de vous deux sait faire ça? Elsa, c'est faire.
Moi, je peux le faire faussement à la radio.
Allez-y. Oh, mais c'est dans ses pipeaux, ça.
C'est
totalement, c'est pas grave.
Je ne sais pas le faire.
C'était pour lancer les fake news, aucune importance.
En attendant les résultats, parlons déjà des nominations et des motifs de satisfaction. D'abord purement chauvin, puisque Les Misérables de Ladj Ly sont représentés catégorie meilleur film étranger. Alexandre Desplat est nommé pour la BO des filles du Docteur March. Et le merveilleux J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin concourt pour le titre de meilleur film d'animation. Motif de satisfaction personnelle, les nominations de Saoirse Ronan et Florence Pugh, catégorie meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle pour les filles du Docteur March. Nommé dans la catégorie meilleur film, Parasite de Bong Joon-ho est nommé 6 fois. Douleur et gloire, Merveille d'Almodovar 2 fois dans une nomination de meilleur comédien pour Antonio Banderas. Scarlett Johansson est nommée 2 fois aussi pour Marriage Story et Jojo Rabbit. 10 nominations pour le merveilleux 1917 dont on parlera demain avec Sam Mendes. Et pour le reste, Buddy Irishman est nommé 10 fois, tout comme Once Upon a Time in Hollywood, Joker 11 fois et Greta Gerwig pas. Et ben, est-ce que ça m'agace? Oui, considérablement.
Thelma Houston, inénarrable interprète de Don't Leave Me This Way, fait équipe avec Morrissey pour un titre qui figurera sur le prochain album de ce dernier. Et le fruit de la collaboration entre l'ancien Smith et la diva s'appelle Bobby, Don't You Think They Know.
I know you're tortured below, but all the pleasure you...
Voilà, maintenant j'ai l'impression qu'ils sont au courant. Une collaboration qui figurera sur A Not a Dog on a Chain, l'album de Morrissey attendu en mars.
C'est l'histoire d'Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui a un rêve, être un jour élu Miss France. Un rêve qui ne le quitte pas, ça a l'air de faire un chouette film. C'est signé Ruben Alves, déjà responsable du Fort Joli La Cage Dorée, et ce nouveau film s'appelle donc Miss.
Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés.
Mon rêve, c'est d'être Miss France.
Debout là-dedans!
Je vais faire Miss France.
C'est garçon.
Bah ouais, garçon. Voilà, c'est ça, oui.
j'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi?
À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Avant le physique, il y a le mental.
Je me sens plus fort en femme.
3, 4.
Voilà.
Oh, t'as achevé.
On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà.
Ah, ils vont te recaler à l'entrée.
Miss de Ruben Alves avec Alex Véter, déjà croisé sur le catwalk de Jean-Paul Gaultier. Ça sortira le 11 mars au cinéma.
France Inter. Popopa. Antoine Decaune.
Yeah, is it me?
Je ne l'ai pas du tout.
Mais enfin, Morrisset.
Ah non.
Ah, oh, oh, mais pas si, évidemment.
Tout. Vous faites hyper mal l'accent british. Redemandez à Elsa, levez bien le bout. Hein.
Ah oui, t'es des menettes.
Lovely. Merci, Charline. Elsa Zilberstein, Thomas Bideguin, vous restez avec nous dans la suite de Pop Pop Pop. On va continuer cette émission 2.0 juste après. Smell Like Teen Spirit. C'est un morceau qui vient d'atteindre le milliard de vues sur YouTube. Comme nous le disait Charline Roux la semaine dernière, le deuxième clip des 90s à atteindre ce nombre vertigineux après le November Rain des Guns N' Roses, pour reprendre ses mots.
Nirvana, Smell Like Teen Spirit, qui fête donc son milliard de vues sur YouTube. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
C'est bien, c'est numérique ça, c'est très numérique.
Bien, nous sommes en compagnie d'Elsa Silberstein et de Thomas Bideguin. Nous avons évoqué Selfie, mais il y a un autre film qui sort mercredi et qui s'appelle Je ne rêve que de vous. Vous êtes en tête d'affiche, ma chère Elsa, c'est un film de Laurent Edman. Ça sort partout et c'est avec Hippolyte Girardot. C'est un film qui raconte un épisode méconnu de la vie de Léon Blum, bande-annonce.
C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard?
Ah, vous êtes là.
Vous n'en faites qu'à votre tête.
Dans ma tête, il y a que vous.
La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher.
La police a cerné la propriété des Montel. Elles ont arrêté Monsieur Blum.
Mon beau-père a besoin de tout le monde pour tenir le coup.
Vous êtes mon ange gardien.
Ça s'appelle Je ne rêve que de vous, de Laurent Edman avec Hippolyte Girardot, Elsa et Émilie Dequesne. Alors, on parle ici d'un monde pré-internet, hein, mais où il y avait plein d'Allemands en uniforme. Et c'est l'histoire d'amour entre Léon Blum en disgrâce.
Comme
et
sur Twitter, quoi.
Oui, et celle qu'il a toujours aimée, Jeanne Reichenbach, et qui va prendre tous les risques pour lui. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait un point commun entre ce personnage de Jeanne et Bettina, votre personnage de Selfie?
Pas vraiment. Alors là, je dirais à part qu'elles sont peut-être passionnées l'une et l'autre, ouais. Mais Jeanne Reichenbach, c'est vraiment une femme vibrante, vivante, habitée, irrépressible, qui aime un homme depuis qu'elle a 16 ans. Mm-hmm. C'est au départ une bourgeoise qui a été mariée à Henri Torres, puis à Reichenbach, qui est le créateur de Prise Unique. Et quand la guerre éclate, donc Blum est enfermé par Pétain, il est retenu comme responsable de la guerre. On le met en prison et elle décide, elle, au moment où elle est juive, au moment où on pourrait aller se cacher en Amérique, elle dit non, moi je reste. Et en fait, ce qui est beau, c'est le portrait d'une femme qui, pour moi, devient une femme. Mmh. C'est le portrait d'une femme qui aimait un homme et qui ose devenir qui elle est, qui ose devenir la femme qu'elle doit devenir. Et ça, c'est beau parce que derrière chaque grand homme, on dit qu'il y a une femme, mais finalement, cette femme va devenir, cette héroïne. Elle va se battre pour cet homme, elle va le suivre dans toutes les prisons. Il est retenu dans différentes prisons, ouais. puis il va aller à Buchenwald, et elle va voir Laval, et elle dit, voilà, moi aussi, je veux partir à Buchenwald. Et je veux me marier à Buchenwald. Et elle va épouser cet homme à Buchenwald. Donc, l'histoire était tellement romanesque. C'est rare d'avoir des personnages au cinéma comme ça, que je voulu absolument le faire, évidemment.
Laval qui est joué
qui par est joué Toretton, voilà, qui est remarquable d'ailleurs. La scène est très belle d'ailleurs. Et voilà, et c'est cette histoire assez folle. C'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est ce que j'aime souvent dans les films historiques. Mmh. C'est assez rare de le trouver.
Vous dites que le point commun entre les deux personnages, c'est l'aspect passionné de ces femmes. Vous avez rarement joué des femmes qui ne l'étaient pas.
Si, quand je fais Il y a longtemps que je t'aime avec Christine Scott Thomas, le film de Philippe Claudel, elle n'est pas... Non, c'est une femme plutôt en creux. C'est une professeure de littérature aussi, en province, qui n'a pas
Charline
vécu
a raison,
vraiment sa vie.
D'une manière générale, vous privilégiez quand même ces rôles.
Oui, après, c'est le hasard. C'est ce que j'adore, en fait, quand on est actrice, c'est qu'on inspire des choses chez les gens.
C'est ce que vous projetez.
Moi, je suis un miroir à fantasmes, comme je dis des fois. Qu'est-ce que vous inspirez? Alors, tant mieux, si j'inspire la passion et l'amour, j'adore. Et c'est vrai que j'aime... Peut-être que, évidemment, je suis une amoureuse d'Adèle H, pour ceux qui connaissent le film. Ça m'a fait penser à ça, parce qu'il y a une relation épistolaire entre elle et Blum. Il n'y a pas beaucoup d'héroïnes. C'est vrai que j'aime Romy Schneider, j'aime les femmes qui ont inspiré l'amour. Je trouve ça beau à jouer. Il n'y a pas beaucoup de rôles d'amoureuses, en fait, au cinéma. Donc, quand on peut le faire, c'est merveilleux.
Thomas, l'effet miroir?
L'effet miroir, il joue, là, je vous assure. Moi qui suis dans ce studio, je vous assure, il y a un effet miroir, il est confondant.
Qu'est-ce que je vous inspire, Thomas?
Je ne sais pas exactement, j'ai du mal à mettre un mot dessus, mais il y en a beaucoup.
On est beaucoup à l'intérieur quand on est actrice, de toute façon, je dis toujours. Donc, qu'est-ce qu'on inspire? C'est génial d'inspirer de la passion. Ouais. Je préfère inspirer ça. Mmh. Après, je pense qu'il y a toujours des héroïnes, même une femme inconnue, boulangère au coin de la rue, c'est une héroïne. On est chacun les héros de nos propres vies. Quoi.
Et vous avez pour partenaire Hippolyte Girardot, première impressions?
Oh, j'adore Hippolyte. Il fait Léon Blum, il est merveilleux. Et Emily Deken, que j'aime énormément aussi, voilà. Et c'était vraiment super de bosser avec eux. Et non, le film, je suis fière de l'avoir fait. Et comme je disais, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et il y a peu de films comme ça. En tout cas, les gens adorent le film.
Ça, c'est aussi mercredi sur les écrans. Et Hippolyte Girardot qui campe un Léon Blum qui reste digne dans ce monde sans pitié, si je puis dire. Ouais. Et on sent bien là l'influence de France Inter. Elsa Silberstein, Thomas Gain, lequel de vous deux sait faire ça? Non, je vous l'ai déjà demandé, on le refait quand même?
Oui,
toujours pas? Oui,
bien.
Non, on approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi. Et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle et j'ai envie de jouer un petit bah, John Lennon, tiens, justement. Allez, j'appelle mon ascenseur.
Quel étage?
Ah, Siri, mais comment vas-tu? Ça faisait longtemps, dis donc.
Ta gueule.
Bah. Non mais quoi Siri, qu'est-ce qui se passe là, ça va pas?
Il se passe que tu es une putain d'arnaque,
enfin.
Tu viens de passer une heure à parler d'internet alors que tu ne sais même pas envoyer un mail.
Mais si je sais envoyer un mail.
Non, sinon tu n'aurais pas d'assistant personnel, à savoir, moi.
Oui bon d'accord, ok, ça va, c'est bon.
Et en plus tu ne m'invites même pas dans cette émission bâtard.
D'accord, Siri tu vas te calmer un peu?
Pauvre merde.
Wow, Siri là.
Tête de fion.
Non, hey, ça va, bon, envoyez un morceau, ça dérape là. Morceau, s'il vous plaît, musique! Non, Siri, on est sur France Inter, tu peux pas dire tête de fion.
Bah non.
Non.
You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. It's a karma's gonna get you. Gonna look you right in the face.
Better get yourself together, darling.
Join the human race.
Tous. Instant Karma 1975, c'est extrait du 7e album de John Lennon, Shaved Fish, pour terminer ce pop-pop-pop sur France Inter. Merci Elsa Silberstein et merci Thomas Bidguin. Selfie, ça sort mercredi prochain, le même jour donc que Je ne rêve que de vous, le film de Laurent Henneman, avec vous Elsa et Hippolyte Girardot. Tout cela est recommandé par Pop-Pop-Pop. Merci à l'équipe de Pop-Pop-Pop. Ghislain Top 12, Bitou Fontanus à la réalisation, à la technique Guillaume Roux, le frère de Charline, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop-Pop-Pop, Sam Mendes, le réalisateur primé au Golden Globes pour le film lui aussi primé au Golden Globes et à juste titre, 1917. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos ouverture d'enveloppe de cérémonie, Absolument. Ah, mais très grosse enveloppe.
C'est un pantalon.
Hein.
C'est un pantalon.
Notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.